Chapitre 58. Liberty Island, Bay d'Hudson, New York. Midi. Lélio de Castro attendait, énervé, impatient, au pied de la statue de la Liberté. Il hésitait entre marcher sur la pelouse de la minuscule île perdue au milieu de la baie de New York, se téléporter sur le piédestal de béton ou directement s'élever jusqu'à sa couronne. Liberty Island avait été le premier lieu choisi par les assignés pour y déplier leur banderole nationaliste, alors qu'une dizaine d'autres militants, à moins d'un kilomètre, devaient occuper Ellis Island et escalader la façade du musée de l'immigration, précisément là où des millions de migrants avaient débarqué pour y fonder le Nouveau Monde, 13 États, puis 30, puis 50, unis et fiers de leur histoire et de leur drapeau. Une île symbole face à Manhattan et au siège de l'OMD, loin de l'effervescence de la Nouvelle Babel. Liberty Island était vide. Lélio scrutait l'horizon désert, micro-caméra à la main. Asima, Fabio, Coco, ainsi que Manik Torossian, l'Arménien, et Connor Flanagan, l'Irlandais, auraient déjà dû se téléporter il y a 3 minutes. Qu'est-ce qu'il fichait? Le journaliste laissait sa caméra tourner pour ne rien rater. Il aperçut d'abord 2 ailes blanches, crut qu'il s'agissait d'un curieux oiseau marin avant de se rendre à l'évidence. L'oiseau possédait la forme triangulaire d'un avion en papier, aux ailes pas vraiment immaculées. Il venait de se matérialiser sous son nez et voletait dans la baie de New York. Lélio l'attrapa avant qu'il ne tombe dans l'eau grise de l'Atlantique, le déplia. Une seule ligne noircissait le papier. 7 mots. Un jour, il faut choisir son camp. Qui avait pu écrire cela? Cléo? Nemrod? Un flic? Le cerveau de Pangaea? Qui pouvait lui avoir adressé ce courrier à l'ancienne, du temps où l'on envoyait encore des lettres? Qui avait ce pouvoir? Que signifiait cette phrase? La main en visière de casquette pour ne pas être ébloui par le reflet des tours de verre face à lui, Lélio resta un court moment à scruter le ciel, dans l'espoir qu'une seconde lettre apparaisse. Avant de comprendre, il tourna la feuille. Un court poème était imprimé au verso. Il le connaissait vaguement, il l'avait appris à l'école, comme sans doute presque tous les enfants de sa génération. Quelques rimes d'un poète oublié depuis longtemps, Paul Fort. Si toutes les filles du monde voulaient se donner la main, tout autour de la mer, elles pourraient faire une ronde. Si tous les gars du monde voulaient bien être marins, ils feraient avec leur barque un joli pont sur l'onde. Alors on pourrait faire une ronde autour du monde. Le texte cette fois était signé Pangaea. Lélio connaissait la rumeur partagée seulement entre quelques initiés. L'Organisation mondiale des déplacements était pilotée par une femme, une seule, la propre fille du président Nemrod. La base de données mondiale avait été baptisée en son honneur, Pangaea. Le vent soufflait dans la baie. La feuille tremblait dans sa main. Pourquoi lui adresser ce courrier à cet instant? Quel rapport avec la Nouvelle Babel? Le journaliste avait toujours trouvé stupide et particulièrement mégalo cette idée du président Galiléo. Entasser des milliards de terriens sur une île, le temps d'une photo souvenir. À l'ère de la téléportation, pour fêter le centenaire et la paix sur Terre, n'y avait-il pas mieux à faire? Plus beau, plus original, plus symbolique qu'un troupeau parqué? C'était évidemment plus simple de donner rendez-vous à tout le monde au même endroit, sur Tristan d'Acunha, mais si on lui avait demandé son avis, il aurait... Lélio sentit soudain son corps se désintégrer et presque aussitôt se matérialiser à nouveau, beaucoup plus haut, comme s'il avait effectué un saut de 100 mètres jusqu'au sommet de la statue de la Liberté. Il posa ses mains en appui sur la rambarde qui entourait la flamme portée à bout de bras. Il voyait, loin. Immédiatement, il brancha sa caméra. Pichipoy version Pangaea. Une chaîne humaine partait de Manhattan jusqu'à Jersey City, puis Cleveland, Toledo, Chicago, et semblait s'étirer à l'infini, à travers l'Iowa, le Nebraska, sans doute ensuite le Wyoming et l'Oregon, jusqu'au Pacifique, à 4 000 kilomètres de là. Il comprenait. Pangaea n'avait pas demandé la permission aux 10 milliards de terriens. Elle les avait déplacés contre leur gré, une fois, rien qu'une fois, selon une destination que l'ordinateur avait calculée pour former des lignes parfaites, tout autour de la Terre. Une fois la stupeur passée, Les terriens avaient vite compris. La rumeur avait circulé. Le projet de Nouvelle-Babel était annulé, ou plus exactement, il était remplacé par une ronde autour du monde, une ronde qui en faisait 10 fois le tour. Hommes, femmes, enfants, après s'être demandé où ils avaient atterri, s'étaient spontanément unis, joignant leurs mains à celles du voisin que le hasard avait téléporté à leur côté. Lilio se retrouva la seconde suivante en haut du volcan Barú, au point culminant du Panama d'où il dominait les deux océans. Son TPC semblait avoir été programmé pour qu'il effectue des sauts un peu partout sur Terre sans qu'il puisse les contrôler. Cette fois, la chaîne humaine liait les deux continents américains, suivant une ligne continue sur le mince cordon de terre, de la frontière colombienne à la frontière mexicaine. En 2 nouveaux sauts, sur le mont Mitchell, dans les Appalaches, puis sur la Aconcagua, il constata qu'une nouvelle ligne humaine commençait à Iqaluit, au Nunavut, près du cercle polaire, croisait une autre chaîne aux alentours des chutes du Niagara et descendait jusqu'à la Terre de Feu. Un nouveau bond. La caméra tournait. Une folle farandole partait de la pointe sud de l'Afrique, au Cap de Bonne-Espérance, pour se prolonger jusqu'à la Méditerranée. Des centaines de milliers de terriens, mains liées, traversant jungles, déserts, savanes, montagnes, pour se partager en 2 branches, l'une vers Gibraltar, l'autre vers le Sinaï, et ne s'arrêter que 9 000 kilomètres plus loin, à Vladivostok, et après quelques pointillés sur les glaciers des îles Kouriles et Aléoutiennes, reprenait en Alaska. Les malheureux citoyens envoyés près du pôle ne tiendraient pas longtemps. Lilio les observait grelotter, mais aucun ne semblait pressé de rompre la chaîne, même si tous, désormais, pouvaient rentrer librement chez eux. 2 chaînes de 4 000 kilomètres cadenassaient l'Australie, de Perth à Brisbane et de Darwin à Adélaïde. Une ligne, entre tropique et équateur, reliait la corne de l'Éthiopie au Cap-Vert, un collier de mains moites et de corps en sueur, autant que ceux qui se crochaient dans la péninsule malaise jusqu'à Singapour, alors qu'à l'autre bout, au nord de la Norvège, tous se serraient pour se réchauffer, doigts, bras et nez gelés. Combien de temps dura cette ronde terrienne? Qui le premier la brisa? Qui eut trop chaud, trop froid, trop soif? Moins de 10 minutes, évaluèrent les historiens. 20 minutes tout au plus pour les plus hautes estimations, avant que chacun rentre chez soi. Les photos firent la une de l'Independiente Planet, dans les minutes qui suivirent, mais elles ne furent pas les seules. Chacun filma. Des satellites zoomèrent, des drones firent de longs travelling. Parmi ces images circulèrent des clichés et des vidéos des assignés participant malgré eux à la chaîne humaine, sans renoncer à agiter leurs drapeaux, slogans ou panneaux. Il en resta des images pour le reste de l'histoire de l'humanité, ou au moins jusqu'au bicentenaire de la téléportation, si d'ici là, le 4e article de la Constitution était aboli, celui qui venait d'être violé. Nul ne peut être déplacé contre son gré. Passé l'émotion, on chercha des responsables, des explications. On se tourna vers le président Galileo Nemrod. Personne ne le trouva.